Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 6 février 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran affirme avoir informé l'AIEA de l'enrichissement de l'uranium à 60% sur le site Fordo. Yémen, 3000 enfants atteints de cancer succombent à cause du blocus. Et la France se prépare à une nouvelle série de grèves nationales contre le projet de la réforme des retraites. C'était les principaux titres, en voici le journal. Réagissant à la déclaration conjointe des États-Unis et de la Troïka européenne sur son programme nucléaire, l'Iran affirme avoir informé l'AIEA de l'enrichissement de l'uranium à 60% sur le site Fordo. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré dimanche 5 février que l'enrichissement d'uranium à 60% sur l'installation nucléaire de Fordo a été signalé à l'Agence internationale de l'énergie atomique le 17 novembre 2022 et que toutes les activités liées à l'enrichissement ont été incluses dans le formulaire d'enquête préparé à cet égard. Il a confirmé, selon le dernier processus d'inspection qui a eu lieu en janvier 2023, aucune action nouvelle ou contradictoire au texte du formulaire d'enquête 2022 qui nécessiterait une notification à l'agence n'a été enregistrée. S'empressant de réagir aux rapports hâtifs et provocateurs fournis lors de la récente visite de l'inspecteur de l'AIEA dans les installations nucléaires de Fordo, les États-Unis et le trio européen, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont prétendu que l'Iran s'est livré à des activités nucléaires incompatibles avec ses obligations en vertu du traité sur la non-prolifération nucléaire, TNP. Ils prennent note du rapport du 3 février de l'AIEA, selon lequel l'Iran a modifié de façon substantielle la configuration de ses centrifugeuses sans informer l'agence au préalable. Dans une prise de contact avec l'agence, jeudi 2 février, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Mohammad Islami, a déploré que le rapport ait été rédigé sur la base d'une erreur commise par l'inspecteur de l'AIEA lors d'une visite inopinée sur le site. La position de l'agence est regrettable, a-t-il déclaré avant de poursuivre. Tout d'abord, les rapports sur n'importe quel pays, à l'exception de l'Iran, ne sont pas immédiatement accessibles aux médias. L'impression de l'inspecteur de l'agence après sa visite à Fordo était injuste, mais il l'a immédiatement communiqué à l'agence. De notre côté, nous lui avons fourni des explications. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi 6 février au sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant au moins 200 morts dans les deux pays et de très importants dégâts, selon de premiers bilans annoncés dans la matinée. En Turquie, le tremblement de terre a tué au moins 100 personnes et blessé des centaines d'autres. Le nombre de morts devrait s'alourdir en raison des lourds dégâts. Il a rasé des bâtiments dans les principales villes du sud de la Turquie, y compris Kahramanmaras et Gaziantep, et a surpris la plupart des gens alors qu'ils dormaient encore. Le gouverneur de la province de Gaziantep a appelé les habitants à se rassembler dehors. Les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens étaient à l'œuvre lundi matin pour tenter d'extraire d'éventuelles victimes des décombres, selon les médias locaux. La Turquie est située sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Fin novembre, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest de la Turquie, faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités. En janvier 2020, un séisme de magnitude 6,7 a frappé les provinces d'Elazik et de Malatya, faisant plus de 40 morts. En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait 114 morts et plus de 1000 blessés. Le tremblement de terre aurait également détruit un grand nombre de bâtiments à Alep et à Hama en Syrie. 42 morts et environ 200 blessés ont été signalés à Alep, Hama et Latakia à la suite du tremblement de terre dans un bilan préliminaire, a déclaré l'agence de presse officielle syrienne Sana, citant un responsable du ministère de la Santé. L'organisation Anti-SAF pour les droits des femmes et des enfants a déclaré samedi 4 février, dans un communiqué à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, que plus de 3000 enfants yéménites souffrent d'un cancer à la suite de l'agression saoudienne et du blocus maritime, terrestre et aérien imposé au Yémen. Les enfants sont désormais entre la vie et la mort. Le groupe de défense des droits a critiqué les organisations internationales et d'autres organismes compétents pour avoir négligé les patients yéménites atteints de cancer au cours des dernières années. L'organisation a déclaré que le nombre d'enfants atteints de leucémie est en constante augmentation puisqu'il est passé de 300 cas à 700 cas dans la capitale Sanaa en raison de l'usage d'armes non conventionnelles fournies par les États-Unis et le Royaume-Uni à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Environ 1000 enfants auraient également contracté la leucémie dans d'autres régions du Yémen pour les mêmes raisons, lit-on dans le communiqué de l'organisation. Le communiqué a souligné la grave pénurie de médicaments nécessaires au traitement des patients atteints de cancer en raison de l'assaut et du siège militaire dirigé par l'Arabie saoudite, déclarant que cela coûterait la vie à de nombreux enfants. L'organisation a noté que les difficultés économiques causées par l'agression et le blocus militaire en cours ont empêché les enfants qui souffrent d'un cancer de se faire soigner à l'étranger, appelant à la réouverture de l'aéroport international de Sanaa à des fins humanitaires. Cette organisation a finalement tenu l'Arabie saoudite et ses alliés pleinement responsables de tous les crimes et violations commis contre la nation yéménite, en particulier les enfants, exhortant la communauté internationale à assumer la responsabilité juridique et humanitaire des violations contre les civils. L'Arabie saoudite, en collaboration avec ses alliés arabes et avec le soutien en armes et en logistique des États-Unis et d'autres États occidentaux, a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015. Le régime sioniste a approuvé un plan de construction d'une nouvelle colonie de peuplement près de la bande de Gaza. Dans la foulée de ses activités illégales de construction de nouvelles colonies de peuplement sioniste, le régime de Tel Aviv a approuvé le développement d'une nouvelle colonie près de la bande de Gaza en dépit de l'opposition de la communauté internationale. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a condamné la politique d'apartheid en cours, affirmant que les colonies illégales ne seront pas un refuge sûr pour les colons. Le Hamas a publié dimanche un communiqué affirmant que la décision israélienne représente une escalade dangereuse qui n'apportera pas la sécurité ou la stabilité aux colons et n'accordera pas à l'occupation la légitimité ou la souveraineté sur notre terre. Le mouvement de résistance a souligné qu'Israël porte seul la responsabilité des conséquences du logement des colons près de la bande de Gaza et de leur mise en danger. Et il porte l'entière responsabilité de l'escalade de la colonisation dans toute la Cisjordanie. Nous appelons la communauté internationale à assumer sa responsabilité dans la lutte contre ces politiques d'occupation raciste qui menacent la paix et la sécurité dans la région, indique le communiqué du Hamas. La France se prépare à une nouvelle série de grèves nationales contre le projet de la réforme des retraites. De grosses perturbations sont à prévoir le mardi 7 février. La circulation des trains et des transports en commun en France sera fortement perturbée du lundi à mercredi, ainsi que les transports en commun dans la région d'Île-de-France. Troisième tour de manifestation contre la réforme des retraites a annoncé dimanche la Société nationale des chemins de fer SNCF du pays. Sur les grandes lignes, la SNCF s'attend à voir circuler un TGV sur deux en moyenne. C'était 1 sur 3 lors de la précédente journée d'action, mardi 31 janvier. La SNCF conseille donc aux usagers des trains et des transports en commun dans la région parisienne d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ces jours. L'opérateur ferroviaire a déclaré qu'environ la moitié du nombre habituel de services ferroviaires à grande vitesse sur les lignes intérieures fonctionnerait, tandis qu'1 sur 4 sur la ligne Eurostar vers Londres ne fonctionnerait pas. Le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale prévoit notamment le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans actuellement et la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein à 43 ans. Deux grèves et manifestations nationales contre cette réforme ont eu lieu le 19 et 31 janvier en France, mobilisant chaque fois plus d'un million de manifestants dans la rue. Les sondages montrent que la plupart des Français sont contre ces réformes. 71% des Français soutiennent le mouvement de contestation contre cette réforme des retraites, révèle le sondage de Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro sur le lendemain de la deuxième grande journée de grève contre le projet de l'exécutif. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. De nouveaux foyers de résistance émergent malgré la politique d'arrestation israélienne. Les forces d'occupation israéliennes avaient détenu Khader Adnan dans sa ville natale d'Araba, près de Jenin. Adnan, 44 ans, avait été arrêté après que les forces israéliennes ont fait une descente chez lui et terrorisé sa famille au milieu de la nuit. Ces dernières années, ce membre du djihad islamique a été arrêté à plusieurs reprises, purgeant plusieurs peines de prison. Il a également entamé plusieurs reprises des grèves de la faim contre la politique de soi-disant détention administrative de Tel Aviv. D'autres Palestiniens ont été placés en garde à vue par les Israéliens dans les villages cisjordaniennes d'Adja et de Bir al-Bacha et dans les villes de Bani Naïm et Beth Fajar. Les forces israéliennes lancent des raids sur diverses villes de Cisjordanie occupées presque quotidiennement à la recherche de Palestiniens soupçonnés. Les raids conduisent généralement à de violents affrontements avec les habitants. Au cours des derniers mois, Israël a intensifié ses attaques contre des villes palestiniennes dans l'ensemble des territoires occupés. À la suite de ces attaques, des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie et de nombreux autres ont été arrêtés. Il est à noter que l'arrestation du haut responsable du djihad islamique de la Palestine intervient alors que les groupes de la résistance émergent dans de nouveaux foyers. L'émergence d'un groupe de résistance palestinien affilié aux brigades Izzadine al-Rassam, la branche armée du Hamas, dans le camp de réfugiés palestiniens d'Arabat Jabr, situé dans la ville de Yejiro, a porté un coup sérieux aux services de sécurité et de renseignement du régime sioniste. Ces derniers se sont plutôt focalisés sur la situation dans les deux villes palestiniennes, Naplouse et Jenin, dans le but de surveiller les actions des groupes de la résistance. Le conflit armé du 4 février entre les combattants des brigades al-Rassam et les forces d'occupation israéliennes dans le camp d'Arabat Jabr a été considéré comme une forte claque au service de renseignement israélien. Les Nations Unies ont désigné 2022 comme l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis 16 ans. L'année dernière, les forces israéliennes ont tué au moins 171 Palestiniens en Cisjordanie et dans l'est de Rots occupé, dont plus de 30 enfants. Au moins 9000 autres ont été blessés. Selon le comité des affaires des prisonniers et des anciens prisonniers, 4700 prisonniers croupissent actuellement dans les prisons israéliennes, dont 29 femmes et 150 enfants. En outre, 850 personnes sont en détention administrative sans inculpation ni jugement. Les prisonniers palestiniens sont régulièrement soumis à des tortures systématiques par le régime sioniste pour s'être révoltés contre l'occupation.
Bienvenue dans nos studios de Presse TV, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Dans notre débat d'aujourd'hui, nous allons parler des manifestations et de la mobilisation importante qu'on a pu voir en France, notamment à cause de la réforme des retraites. Pour ce faire, nous avons préparé donc un reportage et par la suite, nous ferons venir nos invités. Je vous propose donc notre reportage.
La majorité des Français sont opposés à l'augmentation de 2 ans de l'âge de la retraite qu'Emmanuel Macron a jugé très nécessaire pour assurer la survie du système de retraite. Étant donné leur mécontentement, des millions de manifestants ont défilé mardi 31 janvier dans toute la France. Suite à la forte mobilisation pour la 2e journée de manifestation contre le projet de réforme des retraites, le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré à la chaîne de télévision France 2 que l'augmentation de l'âge de retraite était nécessaire pour que le système reste équilibré. Ce qui n'est pas négociable, c'est le retour à l'équilibre. Si on ne va pas à 64 ans en 2030, on n'équilibre pas le système, a-t-il indiqué. En réaction à la grande mobilisation contre ce projet gouvernemental, le ministre français du Travail a ajouté « Cela doit nous amener à continuer à expliquer, à essayer de convaincre et à le faire avec humilité, car on parle d'un sujet qui est toujours compliqué, nous savons qu'est difficile. Il a noté que selon le ministère de l'Intérieur, 1,27 million de personnes étaient dans la rue en France mardi 31 janvier contre 1,12 million lors de la première journée de grève et de manifestation le 19 janvier. Après une mobilisation record contre la réforme des retraites mardi 31 janvier, les syndicats ont appelé à de nouvelles journées de manifestation. Deux dates ont été annoncées, le mardi 7 et samedi 11 février. Des grèves sont également programmées dans les jours à venir. Dans ce droit fil accusant le gouvernement de sous-estimer l'opposition des Français au projet de réforme des retraites, le secrétaire général d'extrême gauche de la Confédération générale du travail, CGT, Philippe Martinez, a appelé à la poursuite des grèves.
Nous revoilà donc sur nos plateaux. Donc, tout de suite, donc, la venue de nos invités. Pour commencer, monsieur André Chamy, notre sociologue et expert juriste juridique. Bonjour, monsieur André Chamy. Ravi de nous avoir. Encore un de nos experts de presse civique, a la gentillesse de pouvoir participer à nos débats. Notre deuxième invité étant monsieur Xavier Dupré, économiste. Bonjour, monsieur Xavier Dupré.
Bonjour.
Toujours un plaisir de vous avoir également sur nos plateaux. Alors aujourd'hui, nous souhaitons discuter donc de la réforme des retraites, de la forte mobilisation, de la situation en France qui n'est pas nouvelle, parce que si je me rappelle bien, depuis des années déjà 80, on disait que la retraite en France allait être un problème sur du long terme. Monsieur Maître André Chamy, vous-même sociologue, que pensez-vous de la situation française? Et comme je l'ai indiqué, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce n'est pas des propos nouveaux ni une volonté nouvelle de faire cette réforme, puisque déjà dès les années 80, on indiquait que les retraités et la retraite dans ces années 2000 allaient être difficiles et compliquées?
Vous savez, s'il n'y avait que la question de la retraite, peut-être que le gouvernement aurait pu en quelque sorte circonscrire la révolte populaire, parce qu'on est dans une société qui est en situation de véritable révolte, c'est-à-dire elle en a assez de plein de décisions qui ont été prises à son encontre, aussi bien sur le plan des libertés, puisque pendant pratiquement 2 ans, les libertés ont été réduites, ne serait-ce que pour des questions sanitaires. Je ne parle même pas de la période antérieure où les libertés ont été également limitées pour des raisons liées au risque terroriste. Vous rajoutez à cela cette nouvelle guerre qui se passe en Europe, en l'occurrence entre la Russie et l'Ukraine. Là, la participation de la France, directe ou indirecte, à cette guerre-là, a conduit évidemment à des conséquences dramatique sur le plan économique, c'est-à-dire il y a une explosion des prix à tout point de vue, que ce soit pour les matières premières, que ce soit pour les carburants, que ce soit pour l'électricité, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en situation d'inflation exceptionnelle qui n'a jamais été vécue auparavant, ne serait-ce que depuis un certain nombre de décennies, si j'ose dire. Et l'impact sur le budget des ménages, sur leur vie au quotidien, sur leur capacité de faire face à leurs besoins de première nécessité, eh bien évidemment, les pousse à manifester cette colère contre le gouvernement et ses décisions, notamment par rapport à ce qui se passe. La retraite devient en quelque sorte, moi j'appelle ça le détonateur social, c'est-à-dire il y a un facteur qui va déclencher une colère, mais en réalité la colère est plus grande et plus profonde. Évidemment, quand vous faites supporter par la classe moyenne, voire la classe inférieure, les conséquences d'une loi qui est inégalitaire et qui a un caractère, difficile à supporter sur le plan économique et sur le plan de la santé des travailleurs, évidemment, vous avez cette espèce de mélange de facteurs qui va pousser les gens à un moment donné à aller plus loin. Et la crainte aujourd'hui des services de renseignement que ces manifestations se transforment en un véritable mouvement populaire avec des actes que les forces de l'ordre ne pourraient pas contrecarrer, parce que évidemment quand vous mobilisez des millions de personnes, puisque les chiffres sont contradictoires, vous avez la police qui dit 1,3 million, mais vous avez des syndicats qui parlent de plus de 2 millions, ce n'est pas négligeable, même si vous prenez ça sur le plan du territoire français. Derrière, ben, vous avez à un moment donné des limites de maintenir l'ordre public et de pouvoir en quelque sorte limiter les mouvements de ces manifestations. Et on parle déjà de mouvements, alors on les qualifie d'extrême droite ou de perturbateurs ou que sais-je, mais en réalité, ces identités deviennent impossibles, particulièrement à identifier, et pourraient faire en sorte que ces manifestations échappent au contrôle de des forces de l'ordre et créer un chaos que le gouvernement ne saurait contenir.
Merci.
Et c'est ça aujourd'hui la situation que l'on craint et qui pourrait aboutir à des situations dramatiques, même si ça reste dans le domaine des suppositions.
Merci, Maître André Chamy. Alors, vous avez parlé notamment de l'inflation récente qui est extrêmement importante, mais cette inflation n'a pas débuté que récemment. Bon, récemment, ça a été un pic très important. Monsieur Xavier Dupré, vous-même économiste, la situation du français moyen ou même de l'européen moyen s'est détériorée avec le temps depuis ces 10 dernières années. On va dire que l'inflation ces derniers temps a empiré la situation, mais les choses se sont détériorées petit à petit depuis ces 10 dernières années. Est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par André Chamy comme quoi cette réforme de retraite n'est pas la seule raison pour laquelle il y a eu une telle mobilisation?
Bien, tout d'abord, je salue Maître Chamy, mais c'est vrai que j'abonde dans son sens. Il faut bien se rendre compte que globalement, lorsque nous sommes arrivés à la fin de l'année 2019, en fait, en termes de production de richesses en Europe, nous avions retrouvé le niveau antérieur à l'année 2008. Donc, globalement, en fait, on commençait, pour le dire très familièrement, nous avons eu de 2018 à 2019, fin 2019, une décennie perdue pour la croissance et le développement. Ça, c'est une première, c'est un premier élément. Alors, par la suite, il y a eu le Covid et aujourd'hui, il y a cette crise énergétique. Et c'est vrai que cette crise énergétique, à l'exception de quelques petits pays européens qui indexent les salaires, c'est notamment le cas de la Belgique, c'est une survivance des politiques économiques des Trente Glorieuses. Dans les autres pays, les salaires n'ont pas suivi l'évolution des prix, de telle sorte qu'on peut dire que le salaire réel aujourd'hui sort laminé. Et donc, sort laminé de cette vague inflationniste déjà derrière nous.
Je pose une question par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, vous avez dit que 2008-2019, en 2019, on revenait vers ce qu'on connaissait avant 2008, mais eux, les salaires à cette époque-là n'ont pas changé non plus. Plus, à l'heure actuelle, l'inflation d'aujourd'hui, où le salaire n'a également pas énormément bougé. Je veux juste pour notre auditeur pour suivre un peu.
Alors, entre 2008 et 2019, on n'avait pas énormément d'inflation en Europe. C'est même le spectre, si vous voulez, de la politique macroéconomique, c'est même plutôt la déflation. Ce qui veut dire que globalement, le pouvoir d'achat n'a pas été terriblement mis sous pression, mais la part des salaires, elle, dans l'économie, a continué à reculer. Donc, oui, effectivement, la richesse que pouvaient s'approprier les salariés, elle a eu tendance à diminuer cette part de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure où c'est pire encore, l'inflation est venue ajouter un facteur de dégradation à très court terme et très rapide du pouvoir d'achat. Ça, je crois que ça, c'est vraiment une donnée qui est là depuis une dizaine d'années. On va de régression sociale en plan d'austérité en passant par de la dégradation soit du pouvoir d'achat direct des travailleurs, soit la qualité des services publics qu'ils financent via leurs impôts. Donc c'est aujourd'hui cette réforme des retraites en France, eh bien quelque part elle pourrait constituer, comme le signalait monsieur Maître Chamy, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que ça fait quand même longtemps que globalement les classes populaires en Europe occidentale, en Europe tout court d'ailleurs, il n'y a pas de différence avec l'Europe centrale. Nous sommes aujourd'hui, clairement, avec un salariat et des classes populaires dont les moyens sociaux d'existence sont structurellement mis sous pression.
Non seulement mis sous pression, mais non seulement mis sous pression, mais selon les aveux entendus sur les réseaux sociaux, mais dès le cinquième jour du mois, en gros, ils ont très peu de quoi vivre. C'est-à-dire, on ne parle pas pouvoir partir en voyage, on ne parle pas des choses qui ne sont pas nécessaires à la vie. On parle des choses nécessaires dès le cinquième jour ou dixième jour du mois pour la plupart de la classe moyenne ou en dessous de la classe moyenne, de la classe ouvrière, comme vous l'avez dit, ils se trouvent en situation déjà de difficulté.
C'est plutôt la classe que vous racontez ici existe, hein, je ne vous racontez pas, vous décrivez quelque chose, qui est plutôt le vécu des classes très populaires, classes ouvrières, et surtout des jeunes ménages plutôt précaires. Il reste encore une classe moyenne en Europe, mais c'est vrai qu'elle-même commence à sentir le poids de cette crise. Ça, c'est évident. Alors là, dans ces ménages-là, c'est plutôt des arbitrages de type aller en vacances, pas aller en vacances, mais c'est très nouveau, donc c'est vécu comme un traumatisme. Alors dans le cas français, c'est vrai que reporter l'âge de la retraite de 4 ans, là, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprécier, l'histoire sociale de la France, pour le comprendre. La retraite à 60 ans, qui avait été décidée par François Mitterrand et l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, est un acquis social tout à fait important et exemplaire en Europe, qui a libéré du temps libre en bonne santé pour toute une série de gens qui avaient déjà quelques décennies d'engagement sur le monde du travail. Et donc là, on sent bien que cette résistance, si vous voulez, en réformant de cette manière, de manière aussi brutale et unilatérale les retraites, le gouvernement Macron, quelque part, approfondit une tendance à l'austérité qui est présente et très présente depuis une quinzaine d'années en Europe, mais il a également touché un symbole sociopolitique de conquête sociale pour les milieux populaires et pour l'ensemble des forces représentant les salariés, des syndicats représentant les salariés, de telle sorte qu'il a sans doute ouvert une boîte de Pandore sur le plan politique. J'ajoute également comme facteur de délégitimation de cette mesure le simple fait que le mouvement politique se réclamant de la non-idéologie qu'est le macronisme, de cet extrême centre qu'est le macronisme, ne dispose plus aujourd'hui d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, quelque part, cette politique ne représente même plus les vœux d'une majorité de Français. Donc, dans ces conditions, effectivement, on peut supposer que une partie, en tout cas l'appareil d'État, va se heurter à une résistance sociale assez farouche et organisée. Il ne faut jamais oublier que lorsque vous avez des mouvements spontanés type Gilets jaunes, type mouvement étudiant, vous avez affaire à des forces qui sont globalement peu structurées. Lorsque vous avez l'ensemble des syndicats, la gauche, le syndicat de gauche, la CGT, mais aussi le syndicat réformiste, la CFDT en face de vous, vous avez des organisations très structurées et qui, quelque part, quadrillent tout le territoire. Donc la question même peut-être aujourd'hui d'une alternative politique, du simple fait de ces mobilisations via les organes représentatifs des salariés, la question d'une alternative politique à Emmanuel Macron peut sans doute déjà commencer à se poser.
Merci, monsieur. Alors, on va revenir sur le dernier point que vous venez de mentionner. L'une des choses que j'ai envie aussi de vous poser, c'est que dans les chaînes françaises, ceux qui sont opposés au projet de réforme disent que c'est inutile, qu'il ne faut pas s'en prendre à la retraite parce que, d'un point de vue économique, il n'y en a pas besoin, notamment parce que beaucoup de retraités, beaucoup de personnes ne touchent pas leur retraite parce qu'ils meurent avant et que, finalement, il y a aussi le fait que beaucoup de l'effet baby-boom qui s'est passé à l'époque d'il y a 40 ans, en fait, va disparaître petit à petit et il y a moins de naissances, donc moins de personnes qui vont dans le secteur du travail. Est-ce que ça, vous, en tant qu'économiste, vous êtes d'accord avec ces propos? Est-ce que cette réforme, elle ne s'en prend pas finalement à quelque chose d'inutile?
Alors, je crois que cette réforme, elle a un but.
Le problème, en vrai,
j'ai posé la question à M. Xavier Dupré, monsieur, et après, je reviens vers vous, M. André Chamy, je vous en prie, M. Xavier.
Je vais m'excuser.
Non, c'est moi.
C'est moi qui suis désolé. Mais en fait, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez la situation des retraites en France, vous la voyez, on peut l'identifier comme une dépense. C'est vrai. Mais vous devez aussi regarder, comme dans toute comptabilité publique, où se trouvent les recettes. Or, on s'aperçoit que la politique économique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, est une politique de cadeaux aux ménages les plus fortunés, suppression de l'impôt sur la fortune. Et vous avez aussi des crédits aux entreprises, des crédits d'impôt aux entreprises qui ont été maquillés en crédits, en subsides à la production. et en soutien à l'emploi, mais qui en réalité aujourd'hui ont très peu profité à l'emploi, n'ont pas vraiment déployé une grosse activité de création d'emplois et n'ont pas déployé une production matérielle supplémentaire dans l'économie française, donc presque une économie qui se désindustrialise profondément. Et donc si on met bout à bout ces cadeaux fiscaux, ces cadeaux aux entreprises, on a déjà de quoi voir venir sur les retraites au cours des 5-6 prochaines années, peut-être même la prochaine décennie, sans grande difficulté. Alors il faut également signaler que on peut mesurer le coût des retraites parce que voilà, ça coûte par rapport à un certain... Ça représente une masse importante des cotisations, mais il faut aussi se rendre compte que le vieillissement de la population, ben, en fait, il se traduit par une augmentation des dépenses de retraite et une augmentation des dépenses de soins de santé. Mais il va se doubler aussi, puisque c'est un vieillissement d'une population.
Ah, nous avons perdu M. Xavier Dupré. On va enchaîner sur la prochaine...
Ça se double aussi.
Il le revoit. Je vous en prie.
Ben oui, c'est ça, c'est sur une génération. Vous devez envisager les choses comme ça. Et vous devez aussi vous rendre compte que sur la prochaine génération, eh bien, il y aura moins de dépenses en termes de soutien aux familles et de soutien à l'enfance, à la petite enfance. Tout ça débloque des moyens. Et aussi, et là j'insiste, c'est que nous sommes à l'aube d'une révolution de l'intelligence artificielle qui risque de, si vous voulez, de faire redécoller une génération, eh bien, les gains de productivité. Donc là, on... en fait, globalement, le système des retraites est finançable.
Merci.
Il est finançable.
Merci,
mais ce qui est en jeu, et je me permets d'ajouter ceci, c'est que si on veut continuer à faire pression à la baisse sur les salaires, il faut pouvoir développer l'offre de travail le plus longtemps possible pour que ceux qui sont en place ne soient pas trop revendicatifs. D'où l'intérêt de maintenir un grand nombre de personnes sur le marché du travail, bien au-delà des 65 ans. Parce que l'objectif d'une partie du patronat français, c'est finalement d'aligner la France sur les exigences du patronat allemand, qui est de maintenir les gens jusqu'à 67 ans au travail.
Merci, monsieur Lalluc.
Excusez-moi, j'ai été un peu long.
Non, il n'y a pas de problème. On va revenir vers notre deuxième invité, monsieur André Chamy, sur l'un des points que monsieur Xavier Dupré vous avait indiqué, concernant notamment la situation macronique au sein du Parlement, mais également le fait qu'il est possible ou non, et sur rumeur, monsieur André Chamy, que monsieur Macron devrait peut-être démissionner. On va pousser peut-être monsieur Macron à démissionner. C'est la rumeur depuis la fin de l'année 2022, où certains analystes ont dit qu'il est possible, ou serait possible, ou probable, que Macron devrait démissionner. Avec ce qui se passe, avec cette mobilisation, est-ce que vous pensez la chose possible, M. André Chamy?
La première question qui va se poser par rapport à la vraie fausse majorité actuelle, est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir, et, ou bien, pour que Macron puisse faire avancer ses projets, est-ce qu'il va passer par une dissolution? Parce qu'il peut être séduit par l'idée d'obtenir une véritable majorité qui lui permettrait de faire passer toutes les lois qu'il voudrait passer et qui sont évidemment pas très populaires. Et aujourd'hui, il s'est mis, si j'ose dire, tout le monde à dos, parce que même la droite qui était prête jusqu'à présent à se rapprocher de lui par rapport à cette loi retraite, eh ben, les déclarations de M. Ciotti, qui est le patron de la droite française, eh ben, ne vont pas dans ce sens-là. Il estime que les déclarations du Premier ministre hier n'étaient pas satisfaisantes et par conséquent, vraisemblablement, contrairement à ce qui a été dit ou allégué à un moment donné, la LR ne suivrait pas vraisemblablement la Macronie dans cette voie-là. Est-ce que à ce moment-là, la Macronie va aboutir à une dissolution? Et si la dissolution devait se faire, quelle majorité on va avoir? Et c'est là le problème. C'est-à-dire, si Macron n'arrive pas à obtenir une majorité qui lui fait passer sa loi ou ses lois, est-ce qu'à ce moment-là, ça va l'inciter à démissionner? Moi, je ne le pense pas, parce que nous avons l'expérience de Chirac par le passé, nous avons l'expérience de Mitterrand par le passé, c'est-à-dire qui ont gouverné avec des majorités qui n'étaient pas les leurs. Par conséquent, on a appelé ça, ou on a inventé le terme de cohabitation, c'est-à-dire un président d'un mouvement et puis en face une majorité parlementaire d'une autre mouvance, évidemment c'est toujours faisable selon la 5e République. Mais par contre, c'est le pays qui deviendrait ingérable. Et les questions fondamentales économiquement nécessaires au pays ne pourraient pas prospérer, en tout cas dans les conditions apaisées.
Mais la première ministre...
C'est là, à mon sens, que la France... systémique traverse une crise politique, mais une crise économique, parce qu'il y a une sorte de fissure entre, pour ne pas dire de déchirure, entre nos gouvernants et la population. La population est en situation de défiance, ça c'est incontestable, par rapport à toutes les forces politiques. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette espèce de morcellement dans la classe politique, c'est-à-dire on n'a pas de véritable majorité, quel que soit le mouvement, que l'on soit dans l'extrême droite ou l'extrême gauche, à tel point qu'à un moment donné, il a été dit pourquoi l'extrême gauche et l'extrême droite, en tout cas ce qui s'appelle, selon la carte politique française, l'extrême gauche et l'extrême droite, pourquoi ils ne travaillent pas ensemble, comme cela s'est passé par exemple en Italie. La question continue de se poser parce que quand on prend par exemple le programme du Rassemblement national et des Insoumis, ils sont compatibles à plus de 75%. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une révolution culturelle pour inciter les uns à travailler avec les autres, comme cela s'est passé en Italie? Ce n'est pas exclu, malgré quelques réticences des uns et des autres. Et malgré aussi la main tendue, vraisemblablement, du Rassemblement national, qui ne voit pas d'un mauvais œil, si je veux dire, un rapprochement avec les Insoumis, malgré les mots durs que chacun peut lancer à l'endroit de l'autre. Nous sommes donc dans une phase de mutation politique, en plus de la mutation économique qui est incontestable, parce qu'il y a un paradigme économique qui est en train de changer. Ce qui était considéré comme le système social à la française, c'est-à-dire la santé à la française, l'éducation à la française et bien entendu les outils républicains à la française, notamment l'armée et la police, et derrière ça la retraite et la sécurité sociale à la française, qui sont tous en quelque sorte l'émanation du Conseil national de la Révolution, et ben tout est en train de péricliter et ça pose une difficulté majeure pour la population qui s'est habituée à ce système, puis aujourd'hui elle voit en quelque sorte un rêve se détruire, pour ne pas dire s'effondrer, et peut-être même mourir de sa propre mort. Et on ne peut pas s'empêcher d'être nostalgique par rapport à cette époque-là, et on aura du mal évidemment à s'en remettre si jamais ce système devait péricliter comme cela s'annonce à travers les projets des gouvernements successifs, de gauche comme de droite. Aujourd'hui, Macron ne fait qu'achever en quelque sorte, ou en tout cas donner le coup de grâce sur le système social, parce que il détache le système de retraite par exemple de l'idée que l'on se faisait de ce qu'on appelle la solidarité nationale. Aujourd'hui, quand on dit que des gens vont travailler plus longtemps, ce n'est pas l'idée de travailler plus longtemps, mais en réalité, ils vont travailler moins longtemps, c'est ça la réalité, parce qu'au-delà d'un certain âge, les entreprises ne les sollicitent plus, les excluent même du système économique, puisqu'ils sont licenciés bien avant, et ils ont du mal à retrouver du travail, c'est-à-dire ils vont perdre 4 ou 5 ans de leur vie et de leur cotisation sans pouvoir bénéficier de la solidarité nationale.
Merci Maître André Chamy, merci pour votre expertise. Ça va être la conclusion donc de notre débat, vous l'aurez compris. Merci Monsieur Xavier Dupré également pour votre participation qui nous a permis d'avoir la vision économiste de la situation. Moi ici, c'est ici que je vous dis au revoir, que je vous remercie, vous auditeurs, de nous écouter. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notre site internet. À très bientôt pour un nouveau sujet du débat, ici, à partir des studios de Presse TV. Au revoir.
L'Iran et son 7e art. Kamaluddin Behzad, maître incontesté de la miniature persane. Le maître Kamaluddin Mehrzad est sans doute le plus grand peintre et portraitiste du XVe siècle de l'Égypte. Nous savons très peu de sa naissance et de sa généalogie. La seule certitude est qu'il devint orphelin très jeune et fut élevé par Mirak, probablement l'un de ses lointains parents. Mirak, armurier de métier, pratiquait la calligraphie et aujourd'hui encore, l'on peut voir de vieilles bâtisses à Herat qui furent décorées de sa main. Il avait un goût artistique très prononcé qui transmit au jeune Behzad, ce qui permit à ce dernier de se familiariser dès l'enfance avec la calligraphie, qu'il abandonna rapidement au profit de l'enluminure. L'enfant était très doué. Mirak s'en rendit compte et l'envoya auprès d'un des chefs de file de l'école de Herat, Valiullah Khan. Sous la férule de ce grand maître, il montra de si bonnes aptitudes qu'il fut très vite remarqué et gravit rapidement les échelons hiérarchiques pour être nommé bibliothécaire du roi Hossein Bayrara. Ce dernier, grand mécène et monarque éclairé, bien qu'héritier de Tamerlan et de son patrimoine de massacres et de destructions, avait su rassembler autour de lui artistes en tout genre, lettrés, poètes et peintres. Ainsi, diverses écoles virent le jour et l'art, particulièrement l'art de la miniature, connut une expansion considérable et sans précédent. L'époque timouride, et surtout le règne du roi Hossein Bayrara, fut l'une des plus fécondes dans le domaine de l'art persan et de toute manifestation de civilisation persane en général. Behzad étant l'un des plus illustres représentants de cette vaste période. Une fois devenu bibliothécaire du roi, il profita de l'occasion qu'il avait de côtoyer les grands maîtres vivants et s'imprégna des techniques de ses prédécesseurs défunts, complétant ainsi activement sa formation. Behzad était donc extrêmement doué et commença jeune son métier de miniaturiste en copiant certaines œuvres célèbres. Il fut également remarqué très tôt par le ministre du sultan, Nizam Eddin Amir Alishir, célèbre mécène qui aimait s'entourer d'artistes et de poètes et qui l'aida à devenir le portraitiste attiré du sultan. Dans sa Badai-ol-Varayé, Vasifi de Herat met l'accent sur le génie du jeune maître en racontant une petite anecdote. Les nobles étaient rassemblés auprès du roi quand Behzad, à l'époque âgé de 20 ans, fit son entrée pour présenter au souverain la miniature qu'il représentait debout dans son parc. La vue de la miniature charma les invités et provoqua d'abord un profond silence qui se transforma en transport d'applaudissements et de compliments qui durèrent près de 2 heures. Dès lors, Behzad occupa une place à part parmi les miniaturistes et commença à enseigner à d'autres le secret de la magie de son pinceau. Il ne vécut que pour son art et porta à l'extrême sa recherche d'une vision picturale épurée, ésotérique et mystique. Il manifestait une nette attirance pour le soufisme et la voie mystique tracée par le poète Jami qu'il suivit sa vie durant. Il essaya d'ailleurs, au début de sa carrière, de transférer la technique poétique de ce dernier dans sa peinture. Behzad passa le restant du règne du roi Hossein Bayrara à son service en tant que chef bibliothécaire et miniaturiste attiré. Cependant, au début du XVIe siècle, Shahbek Khan Sheibani renversa la dynastie timouride à Herat où vivait le célèbre miniaturiste. Peu de temps auparavant, Ce dernier avait été très affecté par la mort de son maître Mirak et de son vieux protecteur Alishir. Le nouveau roi, Shah Bekran, était un homme dur et orgueilleux qui ne manifestait pas un intérêt particulier pour l'art. On dit qu'il poussa l'impudence jusqu'à corriger, par son main, les dessins de Behzad et d'autres peintres, tandis qu'il leur demandait de rester debout en rang et leur expliquait les carences de leur art. Mais le règne de Shah Bekran ne se prolongea guère. 3 ans plus tard, il fut vaincu par le roi Safavid Ismail Ier, qui prit Herat sans effusion de sang. Après 3 années de léthargie et d'immobilisme forcé, le début de l'ère Safavide marqua le début d'une nouvelle époque pour l'art et un renouveau pour Behzad et ses collègues. En effet, le respect des Safavides pour les Timurides et leur passion envers tout ce qui était persan les incita dès leur arrivée au pouvoir à protéger les artistes. Shah Ismail nomma le grand maître Behzad à la tête de toutes les bibliothèques du royaume, ce qui signifiait que Behzad devait désormais contrôler et juger le travail de tous les calligraphes, miniaturistes et relieurs du royaume. Il conserva cette place 20 années, après quoi les Ouzbeks, dont les attaques incessantes finirent par briser les défenses de la ville, envahirent Herat, obligeant la cour et ses artistes à évacuer la ville. Malgré cela, certains calligraphes comme Mir Ali, Sheikh Zadeh ou Mala Youssef tombèrent aux mains des Ouzbeks et furent emmenés à Bokhara, où ils fondèrent l'école du même nom qui connut son moment de gloire à secours au demeurant. Car au fil des années, le manque de talent contribua à nuire au développement de cette école. Finalement, le roi Tahmasp réussit à vaincre les Ouzbeks et reprit Herat. Il voulait cependant regagner sa capitale Tabriz et après bien des discussions, il obligea Behzad et d'autres artistes à l'accompagner. Dans cette ville, Behzad reprit son poste à la bibliothèque royale. C'est à cette époque qu'il fut chargé de terminer l'enluminure du livre des rois de Tahmasp, chef-d'œuvre d'enluminure de la période Safavide. Le ton patriotique des Safavides donna un nouveau souffle à la miniature, qui abandonna un peu le mystico-romantisme des Timurides. Malgré cela, Behzad, dans ses œuvres personnelles et indépendantes, conserva son ton mystique, que l'on peut observer dans des miniatures telles que « Le vieillard et le Jouvenceau » ou « La bataille de Chameau ». Copié plus tard par ses élèves, avec quelques changements altérant le sens que Behzad avait voulu leur donner. Behzad a eu de nombreux élèves, dont les plus importants à Herat sont Rassem Ben Ali et Sheikh Zadeh Mahmoud Mozaheb. Ce dernier, emmené par les Ouzbeks à Bokhara, y fonda l'école de Bokhara, qui, en réalité, suit la voie mystique de Behzad, en y créant de beaux chefs-d'œuvre. Behzad mourut en 1536 à Tabriz. Après sa mort, ses élèves perpétuèrent ses techniques et certains, après la perte d'intérêt du roi Tahmasp pour la miniature et en réponse à l'invitation du roi Homayoun, prirent le chemin de l'Inde. Ils y fondèrent, sous la protection des Mongols d'Inde, l'école indienne de la miniature qui fut à la source de la formation du courant artistique le plus important après Behzad.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.